on va parler des bâtisseuses de la lecture publique. Voilà. Mon livre commence par cette phrase. Quand on enseigne aujourd'hui aux bibliothécaires en devenir qui sont majoritairement des femmes, les modèles qu'on leur présente sont essentiellement des hommes. Aujourd'hui, il y a 80% de femmes qui travaillent dans les bibliothèques et on parle pourtant essentiellement des hommes qui ont construit les bibliothèques. Alors moi, j'ai été pendant longtemps enseignante de futurs élèves bibliothécaires. C'est vrai que je parlais dans des cours d'histoire essentiellement des hommes. Voilà, des figures marquantes qui ont construit ce métier. Aucune femme n'apparaissait avant les années 60. Alors j'ai dirigé un livre qui s'appelle « Figures de bibliothécaires », qui est un dictionnaire autour des bibliothécaires. Et donc on a travaillé en collectif et la question du genre s'est posée. Et combien de femmes on allait mettre sur les bibliothécaires qui étaient citées. Là, j'ai découvert, on les connaissait assez peu, des figures assez remarquables de femmes, alors évidemment d'hommes aussi, et j'ai poursuivi mes recherches sur ce sujet et on va en faire le tour. Alors, quasiment aucune femme ne travaille en bibliothèque avant le XXe siècle. Elles y entrent surtout après 1920. Avec cette étude, moi j'ai voulu démontrer que leur arrivée, elle a été essentielle dans le processus de transformation des bibliothèques. Au XIXe siècle, le métier de bibliothécaire, il est occupé essentiellement par des érudits respectés. Et puis ensuite, au début du XXe siècle, il y a un courant moderniste qui apparaît. Et ce courant moderniste, il va être incarné par des femmes investies. Alors, on connaissait certaines pionnières dans tous les métiers, en fait. Hein, il y a des pionnières. Il y a environ 10% de femmes qui sont identifiées et toutes les autres oubliées. Alors, je parlerai un peu des pionnières, mais ces pionnières, elles masquent le gros des profils de celles qui travaillent. Et on va les voir. Voilà un peu le plan de la présentation. Alors, d'abord, je vais commencer par vous expliquer comment je les ai trouvées. Parce qu'elles avaient disparu, il fallait bien les chercher. Puis ensuite, je vais faire un parcours historique, hein, plutôt. Donc, mon livre, il y a toute une partie aussi de sociologie sur qu'est-ce qu'étaient ces femmes, dans quel milieu elles étaient, etc. Mais ça, je n'en parlerai pas. Alors, chercher les femmes. Donc, dans l'histoire des bibliothèques, le rôle des femmes a été oublié, minimisé. Comment les retrouver? J'ai mis un certain temps à les identifier. Parce qu'il me fallait que je retrouve des noms, en fait, tout simplement, pour faire des parcours. Finalement, c'est un archiviste qui m'a aiguillé vers le journal officiel de la République française et j'ai repéré des arrêtés de nomination. Alors, ma recherche, elle a des critères chronologiques très précis, c'est-à-dire que je n'ai retenu que des femmes nées avant 1920. Celles qui arrivent justement dans le métier à partir des années 20. Donc ça m'a permis de faire une liste de noms que j'ai pu ensuite compléter par d'autres sources. Il y a des collègues aussi, j'ai fait appel à des listes de diffusion, etc. Et puis il y a des collègues qui ont remué la mémoire de leur établissement et qui m'ont donné un certain nombre de noms. J'avais environ 300 noms. Mais enfin, après des noms, il faut reconstituer des parcours, parce que des noms, ça ne donne pas grand-chose. Donc là, vous avez par exemple la fiche de Marguerite Gruny. Donc les inscriptions aux écoles, les inscriptions aux concours permettent d'avoir beaucoup d'informations. Date de naissance, adresse, les parents, dossier d'inscription. Alors là, elle s'inscrit à l'école des bibliothécaires et on lui demande quel est l'état de sa vue, de son ouïe. On lui demande quels sont les derniers livres qu'elle a lus dans l'année. Donc ça permet d'avoir des bases beaucoup plus complètes. Si elle fait de la sténo, si elle parle des langues, voilà. Donc ça permet de reconstituer des parcours. Mon objectif, c'était pas l'exhaustivité. C'était d'avoir une base représentative, donc j'ai réussi à avoir une soixantaine de parcours sur lesquels je puisse m'appuyer. Et à partir de ces parcours, je les ai comparés avec la presse, bien sûr, de l'époque, les écrits des bibliothécaires, mais évidemment, les bibliothécaires, c'est des gens qui écrivent sur leur métier, ils n'écrivent pas sur leur vie. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de faire un essai sur le développement des bibliothèques, mais un essai sur les femmes dans les bibliothèques, donc comment elles intégraient. Donc, il y en a une seule qui a écrit ses mémoires, c'est Suzanne Briet, j'en reparlerai au fil de la conférence. Et puis, j'ai amassé tout ça pour essayer de construire une histoire qui navigue un peu entre l'histoire des femmes et l'histoire des bibliothèques, avec l'idée d'ajouter des femmes à l'histoire des bibliothèques. Alors voilà, les femmes, les premières bibliothécaires, où est-ce qu'elles apparaissent ? Au congrès pour le travail des femmes en 1899, il y a plein de sessions de discussion et d'échanges qui sont organisées sur tous les métiers. Et il y a une session qui est consacrée aux bibliothèques. Et donc on voit que dans tous les pays du monde, les femmes arrivent dans le dernier quart du 19e siècle dans les bibliothèques. Et on en trouve à Honolulu, en Australie, au Canada. Là, vous avez une image de Marianne Frost, qui est la première femme à diriger une bibliothèque en Angleterre. Et vous voyez d'ailleurs qu'elle dirige, dans le 1914, elle dirige une équipe de femmes qui sont toutes habillées pareil. Alors, on parle de la France dans ce congrès. Et pour la France, un seul nom est cité de femme et c'est Marie Pélechet. Alors, Marie Pélechet serait-elle la première femme ? Non, mais je vais quand même vous en parler. Alors, Marie Pélechet, c'est une incunabuliste, hein. Donc elle a travaillé sur le catalogue des incunables. Donc un incunable, c'est un livre publié entre 1500 début de l'imprimerie jusqu'au 16e siècle. Elle a, par ses propres deniers, œuvré au catalogue des incunables des livres imprimés. Et donc la Bibliothèque nationale l'a nommée bibliothécaire honoraire le 6 décembre 1899, en remerciement de ses services rendus, mais elle n'a jamais été embauchée, elle a toujours été bénévole. Il faut quand même dire un mot aussi sur la grande misère des bibliothèques sur toute cette époque. Donc là, j'ai une petite citation d'un inspecteur des bibliothèques qui dit « Il y a en France, il y a quelques municipales qui sont admirablement ordonnées. En revanche, il y en a beaucoup trop d'autres qui sont des cimetières de livres. » Effectivement, peu d'intérêt pour les bibliothèques en France. Alors évidemment, je vais en reparler, mais la lecture publique, enfin, ça n'existe pas. La lecture pour tous, ça n'existe pas. Les bibliothèques, il y a quelques grandes bibliothèques parisiennes qui ont un certain statut et certains moyens. Sinon, les autres bibliothèques sont quand même assez misérables. Alors, la trace des premières femmes, elle se trouve dans les bibliothèques populaires, donc voilà, ça, c'est une mémoire qui a quasiment disparu, qui a été réactivée depuis une dizaine d'années par un certain nombre de recherches, parce que la lecture dite publique, la lecture pour toutes, elle est donc assumée par plus de 10 000 bibliothèques populaires qui existent, qui sont toutes associatives, mais qui sont d'abord religieuses, ensuite syndicales, patronales, beaucoup de bibliothèques militantes. Et ici, on se trouve donc dans, ça représente bien l'endroit, dans la première bibliothèque populaire fondée à Paris en 1861, et la seule qui est demeurée, puisque toutes les bibliothèques populaires, en fait, elles ont été municipalisées au fil du temps. Donc elles ont disparu. C'est assez difficile de retrouver les traces, même si ce sont des associations, c'est quand même de la micro-histoire, toutes leurs histoires, elles ont souvent disparu. Donc ici, il y a eu une femme, présidente, je crois que c'est à peu près la première femme qui apparaît. Les sources, après, elles sont quand même difficiles à identifier. Donc Pauline Weller, elle est en 1915 présidente par intérim, mais elle est présidente, pas présidente. Et puis après, en 1916, d'ailleurs, elle s'écrira présidente. Donc, voilà. Et quand on cherche un peu, puisque bon, c'est des associations, donc il y a des déclarations, donc on trouve les membres, etc. On trouve partout, en fait, des femmes dans la bibliothèque du syndicat de la chaudronnerie. Voilà. On trouve des femmes qui travaillaient dans ces bibliothèques. Dans les bibliothèques d'études, enfin dans tout le reste des bibliothèques, en fait les autres c'était toutes des bibliothèques d'études, seules des concierges et des relieuses y travaillaient. Il y avait des femmes relieuses qui étaient d'ailleurs toujours moins bien payées que les hommes. Puis, on peut aussi se poser des questions sur l'accès des femmes à ces lieux de lecture, en fait, aussi, parce que si elles n'y travaillaient pas, elles avaient aussi parfois du mal à y arriver. Alors, je vais vous raconter une petite histoire à la bibliothèque Sainte-Geneviève. Donc, en 1894, une étudiante demande à être admise aux séances du soir de la bibliothèque. Le conservateur lui refuse l'accès, même si rien ne l'interdit dans le règlement. C'est, je cite, « une tradition fort sage qu'il est utile de conserver, parce qu'on craint que la bibliothèque ne devienne un lieu de rendez-vous. » Et donc du coup, les conservateurs se posent des questions. Est-ce qu'on ne pourrait pas ouvrir une salle pour les femmes ? Est-ce qu'on ne pourrait pas assimiler les femmes aux jeunes de moins de 18 ans qui, eux, n'ont pas le droit de rentrer à la bibliothèque ? Bon, finalement, il faut attendre 1899, donc 5 ans après, pour que le ministre autorise une expérience. Une autorisation est accordée à toute jeune fille, offrant des garanties suffisantes de bonne tenue. Voilà l'accès des femmes aux bibliothèques. Alors, les études et le travail, hein, voyons aussi le contexte général. Il y a plusieurs facteurs d'accélération de l'arrivée des femmes sur le marché du travail. Donc, fin du 19e, il y a tout un ensemble de réformes dans l'enseignement qui permettent aux filles d'accéder à l'enseignement supérieur. Toutefois, dans l'esprit des législateurs, la scolarité, elle devait surtout permettre à la femme d'être apte à dialoguer avec son mari et de suivre les études de ses enfants. Formation n'était pas égale à emploi. Mais, ceci dit, il y a quand même de plus en plus de femmes qui accèdent à l'enseignement supérieur. Et certaines ont envie de travailler. Puis ensuite, il y a des transformations sociales avec les métiers de l'industrie, les métiers du commerce, de la finance, qui ont besoin de petites mains. Et il y a la Première Guerre mondiale qui va aussi accélérer leur entrée dans le monde du travail. Donc ça démarre surtout après 1920. La bibliothèque de l'Université de Paris, dite la Sorbonne, embauche dès les années 20, là vous avez voilà, la trace de Mademoiselle Rouillard qui est nommée 1er janvier 1901. À la Bibliothèque nationale, la première femme embauchée aussi dans un service de collection, parce qu'il y avait quand même des relieuses, des femmes de service, c'est Myriam Foncin. Et elle se présente pour la section cartographie, la gestion des collections, hein, c'est le cœur de métier. Elle est recommandée par un géographe, c'est la fille d'un géographe. Et je vais vous lire donc le courrier qu'il adresse à l'administrateur de la Bibliothèque nationale. Donc il comprend les craintes de l'administrateur sur, je cite, « la loquacité du beau sexe ». Et il conseille de choisir une personne réservée dont le physique ne risquerait pas d'inspirer des passions. Donc, il énumère ensuite les compétences, la formation et la situation. Je cite, « Depuis le décès de son père, elle a une faible fortune et elle a besoin d'une occupation. Si vous deviez lever l'interdit, donc il existait, je ne pourrais pas vous offrir de candidat mieux préparé. » Donc, à la suite, Myriam Foncin est donc en 1920 la première femme embauchée dans un service des collections à la Bibliothèque nationale. En région, donc trouver la trace des femmes, c'est un jeu de piste en fait, dans les rapports d'inspection qui sont faits. Et des femmes, il y en a, comme dans les bibliothèques populaires. Voilà, on en voit qui arrivent tout doucement, qui sont embauchées. Parce que, en fait, ce métier, il est considéré comme tout à fait honorable pour des femmes, hein. Surtout pour le service de prêt qui commence à se développer tout doucement dans les bibliothèques et qui demande des figures aimables. Alors, il y a une initiative américaine qui va amorcer le changement et cette citation de cette bibliothécaire américaine en 1920 est tout à fait révélatrice. Les bibliothécaires doivent être des femmes cultivées, instruites et assez jeunes pour recevoir l'instruction spéciale indispensable. Or, en France, les femmes de milieux cultivés n'exercent pas volontiers une profession. Et jusqu'à présent, aucune carrière ne leur était ouverte dans les bibliothèques. Le travail dans les bibliothèques du comité américain a été organisé et développé par des bibliothécaires de carrière. Et peut-être est-ce là un commencement, l'ouverture d'une carrière nouvelle pour les jeunes femmes françaises. Effectivement. Alors c'est quoi cette aide ? En 1917, le comité américain pour les régions dévastées, le CARD, est chargé d'aider certaines régions de l'Est de la France dans différents domaines. La santé, les transports, le social, la construction et la culture. Il est piloté par une philanthrope, Anne Morgan, qui est la fille du banquier J.P. Morgan. Et le CARD, il crée dans l'Est de la France un certain nombre de bibliothèques et il forme des femmes pour les gérer. Qu'on fête cette année les 100 ans du CARD, du fonds J.P. Morgan, etc. Donc il y a plein de photos qui ont été numérisées, donc je vous en fais passer quelques-unes, voilà, qui montrent donc ces bibliothèques dans l'Est de la France. Là, vous avez même une petite bibliothèque de guerre, en fait, hein, qui sillonnait le front. Voilà, la bibliothèque de Soissons, la bibliothèque de Vic-sur-Aisne. Donc, vous voyez, c'était des baraques en bois. Hein. À Paris aussi, le CARD aide à la fondation d'une bibliothèque Fessard aujourd'hui, Jacqueline Dreyfus-Veil. Voilà. Et quand la journaliste Louise Krupp visite les bibliothèques construites dans le CARD, elle dit... La moitié de la population s'est fait inscrire et la charmante salle ne désemplit jamais, ouverte de 8h du matin à 10h du soir. Cette installation est admirable, si différente de nos bibliothèques poussiéreuses. Autre booster, c'est une école de bibliothécaires qui est installée à Paris, une école américaine qui s'installe à Paris, qui va fonctionner pendant 6 ans et qui va former environ 200 bibliothécaires et uniquement des femmes. Une image de cette bibliothèque. Alors, les femmes à l'époque, enfin, la seule école qui existait pour former les bibliothécaires à l'époque, c'était l'école des Chartes. Grande école, une école prestigieuse, ça l'est toujours. Et la première femme admise, c'est 1906. Mais bon, c'est surtout à partir des années 20 où il y a un nombre important de femmes. Donc l'école des Chartes, ça fait partie, comme l'école des Mines, l'école Polytechnique, une des grandes écoles françaises. Et donc c'est la seule grande école à atteindre la parité homme-femme dès les années 20. Ce qui veut dire que le métier de bibliothécaire-archiviste intéresse les femmes. Mais là encore, diplôme n'est pas équivalent à poste. Donc là, ce sont des carrières bien sourcées, parce que bon, on voit que leur suite... Et il y en a beaucoup qui disparaissent en fait, qui sortent diplômées et qui ensuite ne trouvent pas d'emploi. Et dans le monde des archives, et jamais elles ne rentrent comme conservateurs, les hommes sortent souvent bibliothécaires et rapidement conservateurs de bibliothèque, jamais une femme n'est nommée conservatrice de bibliothèque quand elle sort de l'école des Chartes, et il faut attendre 1950 pour qu'une archiviste soit nommée dans un service d'archives. Et c'est dans le Cantal, parce qu'ils ne trouvaient personne. La profession, elle s'est quand même féminisée dans les années 20, mais l'insertion des femmes, elle s'opère selon certaines conditions. Et ce qui prime à l'époque, c'est l'essentialisme. L'essentialisme, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'essence dirige l'existence. Je peux la résumer par une citation dans une thèse de 1906 de Paul Cambon qui dit « Une poule ne peut pas chanter comme un coq ». Donc les hommes et les femmes ont des fonctions, des places, des destins différents qui sont liés à leur biologie. Elles sont destinées à des métiers qui prolongent leur mission fondamentale de mère et d'épouse. Des métiers qui impliquent des qualités de dévouement, d'attention, de précision, d'amabilité. Donc infirmière, institutrice, préposée des postes, aide-chimiste et bibliothécaire. Donc la division du travail est totalement sexuée et les employeurs emploient différemment les compétences masculines et féminines. La masse des tâches dans les bibliothèques dites bibliotechniques, comme le qui ont augmenté avec l'augmentation de l'édition et puis la diffusion de plus de bibliothèques, bulletinage, copie de fiches, classement, sont traitées par des femmes. Évidemment, elle s'occupe des bibliothèques pour la jeunesse, mais à l'époque, il y en a encore très très peu. Michèle Perrault, historienne des femmes, elle utilise ce terme de métier de femme pour définir toutes ces nouvelles fonctions dont la société a besoin, qui sont des petites tâches qui sont demandées aux femmes. Alors voilà la citation qui confirme un peu ce que je viens de dire. Donc Marcel Godet, 1930, c'est le directeur de la Bibliothèque nationale suisse. Et il dit, donc on a voilà, passé, les femmes sont arrivées, la carrière est ouverte à la femme et lui convient fort bien. L'activité des bibliothèques offre un singulier mélange de travail intellectuel et de travail machinal. C'est une sorte de ménage où l'esprit d'ordre, le sens pratique, les soins attentifs, minutieux et le dévouement d'une femme se trouvent très bien leur emploi. Ses qualités sociables, sa serviabilité sont utiles dans les rapports avec le public. Donc, elles sont arrivées. Donc là, vous avez un peu un panel d'adjectifs. Elles sont arrivées et elles sont appréciées. Sont dans les évaluations de stage. Donc le DTB, c'est le diplôme technique de bibliothécaire et aussi, voilà, quand elles doivent passer ce diplôme, elles doivent avant faire un stage et on voit que, voilà, elles sont appréciées pour tout un ensemble de qualités qui ressemblent à ces qualités de la vision de la femme. Et c'est, alors, on la voit aujourd'hui différemment, mais c'est une vision qui est partagée par tous à l'époque. Alors, on va quand même parler de ces pionnières. Comme j'ai dit, dans quasiment toutes les histoires de métiers, il y a 10% environ de femmes, toujours, qui sont citées. Donc ces femmes, elles sont visibilisées et elles ont passé la barrière de l'histoire. Elles sont quand même intéressantes parce qu'elles s'inventent. Elles inventent leur rôle de femme dans un métier d'homme. Alors, je vous en ai sélectionné quelques-unes. Hein. Je ne vais pas vous passer toute leur carrière en détail. Hein. Je vais juste vous montrer ce qui les rassemble. Donc, Suzanne Brillet, Bibliothèque nationale, elle a créé la salle des catalogues, la salle de recherche bibliographique hein, pour aider les gens dans leur recherche. Jeanne Dupic, elle dirige pendant de nombreuses années la bibliothèque de Rouen. Louise Noël Malclès, elle est à la Sorbonne et elle forme un nombre important de femmes et c'est une spécialiste de la bibliographie. Yvonne Audon, elle crée la bibliothèque du Musée de l'Homme, c'est aussi une résistante, j'y reviendrai. Victorine Vérine, elle crée le premier bibliobus en France en 1930 dans l'Aisne et elle dirige aussi la bibliothèque de Soissons. Myriam Foncin, embauchée en 1920 à la Bibliothèque nationale, ce sera la première femme conservatrice à la Bibliothèque nationale. Et Jenny Foster Delso, j'y reviendrai aussi, elle gère un outil important de récupération des livres spoliés à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Alors, qu'est-ce qui les rassemble? Elles commencent toutes à travailler juste après la Première Guerre mondiale. Elles sont toutes issues de la bourgeoisie, parents, petite, moyenne, petite bourgeoisie, enseignants, commerçants, fonctionnaires. Elles sortent toutes de l'enseignement supérieur. Jeanne Dupic est chartiste, beaucoup sont allées à l'école des bibliothécaires américains. Et Jenny Foster Delso, elle a suivi la première école de bibliothécaires pour femmes à Strasbourg, en 1912, quand Strasbourg était allemand. Elles ont des carrières internationales, donc c'est-à-dire elles ont souvent côtoyé ces femmes américaines dans les années 20, donc Yvonne Audon, elle est partie par exemple 2 ans aux États-Unis, hein, donc elles sont souvent plurilingues, Suzanne Brillet va souvent en Allemagne, Louise Noël Malclès aussi. Alors aucune ne voulait être bibliothécaire, hein. Il n'y a pas de vocation, hein. Les vocations sont quand même très très rares. Hein. C'est vraiment une rencontre, une opportunité qui les fait rentrer dans la profession. D'ailleurs, elles sont guidées par des hommes. Il ne faut pas avoir une vision manichéenne des hommes contre les femmes. Elles sont soutenues et accompagnées en fait hein, par un certain nombre d'hommes qui font partie de ceux qu'on appelle les modernistes. Donc là, vous avez une photo de l'école des bibliothécaires en 1926 et on y voit 2 personnages qui sont importants hein, dans l'histoire de la modernisation des bibliothèques, c'est Gabriel Henriot et Eugène Morel, Yvonne Audon. Et ces hommes, ils les font rentrer, c'est grâce à eux qu'elles deviennent bibliothécaires. Une rencontre, un stage, un accompagnement les font rentrer dans leur métier. Elles cumulent de multiples activités. Elles parviennent toutes à un moment de leur carrière à des postes de direction. Elles vont y travailler longtemps, hein, elles en vont souvent à 70 ans à la retraite. Hein. Ensuite, elles ont beaucoup de responsabilités associatives. Elles écrivent dans des revues professionnelles, elles forment des élèves, elles participent à des jurys, elles expérimentent toutes. Hein. Elles lancent des nouveaux projets, des nouveaux dispositifs. Hein. Voilà, elles sont volontaires. Soucieuse, enfin portée par l'intérêt général, par le sens du service public, mais pas d'œuvre collective féminine en tout cas. Hein. Elles se connaissaient, elles étaient certainement amies, mais il n'existait pas d'entraide féminine, hein. C'était pas l'heure. D'ailleurs, certainement qu'elles ne se sont pas rendues compte de leur exceptionnabilité. On se rend pas compte à l'époque quand on est exceptionnel ou quand on est pionnière. Hein. Et elles ont été plutôt, comme beaucoup de bibliothécaires, assez modestes dans le défrichement de leur travail. Elles ont quand même réussi à dépasser le plafond des oubliés. Et on va revenir aux oubliés. Voilà, donc l'intégration, hein, parce qu'à partir des années 30, les femmes arrivent quand même en masse dans les bibliothèques. Vous allez le voir là avec ce schéma, ça c'est les candidats au certificat d'aptitude aux fonctions de bibliothécaire entre 1908 et 1952. Je ne vais pas vous donner les chiffres, mais les hommes sont en bleu, les femmes sont en orange, je les ai quand même pas mis en rose. Et on voit bien, le nombre de femmes est écrasant. dans tous les dispositifs, c'est pareil. Hein. Le nombre de femmes devient de plus en plus important. Les hommes dirigent, les femmes inventent. Parce qu'une ségrégation s'opère, elle continue, c'est-à-dire que les femmes sont cantonnées à la base de la pyramide et même à diplôme égal, elles n'obtiennent jamais les mêmes postes. Alors, le côté positif, c'est qu'elles ne sont pas accaparées par des responsabilités administratives, financières, politiques qui incombent à des postes de direction. Et un certain nombre d'entre elles se replient sur des secteurs particuliers. Elles s'emparent de la normalisation documentaire qui va être très importante après-guerre, les catalogues collectifs. Elles investissent les sections jeunesse, beaucoup sur l'aménagement des espaces, l'amélioration du service public. Et parfois, ce sont des petites choses. Mais par exemple, c'est Yvonne Audon qui introduit, pour ceux qui ont fréquenté des bibliothèques il y a un certain temps, vous avez peut-être connu les petites fiches. Hein. Ici, par exemple, les bibliothèques avant, c'était tous les prêts se faisaient sur des livres d'inventaire. Et puis ensuite, dans les années 30, on est passé à un système de fiches. Et ça, c'est les Américains qui l'ont créé, et ce sont des femmes qui l'importent et le mettent dans un certain nombre de bibliothèques. Alors, en règle générale, leur carrière connaît un déroulement lent. Alors là, rare témoignage issu d'un journal intime, hein, donc c'est Janine Alf, qui est bibliothécaire à l'heure joyeuse, et elle se marie avec l'artiste peintre Francis Amburger. Et voilà ce qu'elle elle demande, un congé de 6 mois pour cause de mariage. Voilà ce qu'elle écrit dans son journal intime. « Gardez ma situation, quelle joie, mais est-ce possible? Et mon traitement qui n'est pas lourd? Peut-on travailler et tenir un ménage? Au fond, pourquoi le mari ne s'en occuperait-il pas? Surtout s'il reste à la maison, il est peintre, hein, son mari. Ayant son atelier chez lui, un mari qui fait la cuisine, cela doit être drôle. Combien j'aimerais que dure cette vie de travail joyeux à l'heure joyeuse, cette chère biblie, surtout avec Madame Le Riche et Madame Gruny, que j'aime énormément. Il faudrait ne jamais se séparer. » Bon, finalement, elle quitte quand même la bibliothèque de l'heure joyeuse. La bibliothèque de l'heure joyeuse, c'était la première bibliothèque pour la jeunesse qui était Paris 5e, créée en 1924. Voilà, et ça a été quasiment la seule pendant longtemps. Et elle existe toujours. Les questions que se pose cette jeune femme, c'est des questions qui sont encore récurrentes. 20 ans plus tard, c'est là qu'elle, donc dans une somme, le deuxième sexe, Simone de Beauvoir, elle le redit, elle l'analyse. C'est entre 18 et 30 ans que les conflits atteindront leur maximum d'intensité. C'est le moment où l'avenir professionnel se joue. Que la femme vive dans sa famille ou soit mariée, son entourage respectera rarement son effort, comme on respecte celui d'un homme. On lui imposera des services, des corvées, on brimera sa liberté. Les deux témoignages se rejoignent. Toutefois, au fil de la décennie, il y a quand même un certain nombre de femmes qui obtiennent des postes de direction. 3 bibliothèques sont construites entre 1920 et 1930. Et ce sont 3 femmes qui les dirigent. Et il y a tout un ensemble de bibliothèques qui sont dirigées par des femmes. Souvent, on voit avec des salaires un peu inférieurs aux hommes, mais les choses se mettent en place. À la Bibliothèque nationale, en 1912, 58 postes, on a 3000 aujourd'hui, donc c'était vraiment une petite bibliothèque, aucune femme. En 1944, 54% du personnel est féminin. Et Myriam Foncin est la première femme donc nommée conservatrice d'un service de collection. Alors, cette photo du personnel de la Sorbonne en 1933, il est finalement assez représentatif de ce que sont les bibliothèques. Le personnel des bibliothèques, des hommes qui dirigent, là sur cette photo il y a 7 femmes et 4 hommes. Et dans les femmes, il y a plusieurs femmes qui ont poursuivi de longues carrières. Un mot sur l'entre-deux-guerres et sur Yvonne Dodon, qui est la créatrice de la bibliothèque du Musée de l'Homme. Donc, dans l'histoire générale des bibliothèques, l'entre-deux-guerres, c'est une période de réflexion. Il y a ce courant des modernistes, il y a la réalité traditionnelle, on va dire, et les modernistes, ils doivent convaincre les politiques et leurs collègues que les bibliothèques doivent s'ouvrir à tous les publics, qu'ils doivent s'inspirer de ce qu'on appelle la public library américaine, ouvrir des bibliothèques pour la jeunesse, avoir des horaires d'ouverture, avoir des livres que l'on peut prêter, parce qu'il n'y avait pas de service de prêt Donc, entre les années 20 et les années 40, c'est une période un peu de tension, de discussion, avec beaucoup de débats, beaucoup d'articles, beaucoup de conférences. Au milieu, une crise économique. Donc, même ceux qui avaient des envies, des projets, etc., ils sont difficiles à réaliser. C'est pour ça que l'exemple de la bibliothèque du Musée de l'Homme est assez remarquable. D'une part, parce qu'elle est vraiment assez exceptionnelle. Donc, Yvonne Audon, elle est recrutée par Paul Rivet, qui crée le Musée de l'Homme, et il veut un musée avec une grande ouverture populaire. Elle, elle est partie longtemps aux États-Unis, et donc elle s'inspire de l'architecture et du fonctionnement américain pour créer cette bibliothèque. Elle milite pour que la bibliothèque ait une terrasse, soit au dernier étage, et elle crée la première bibliothèque qui est à la fois spécialisée et public, c'est-à-dire une bibliothèque ouverte sur les, enfin, pour les ethnographes, les anthropologues, voilà, mais en même temps qui peut être accessible à tous les publics, ce qu'elle est toujours. Hein. La bibliothèque du Musée de l'Homme s'appelle maintenant la bibliothèque Yvonne Audon. Et en fait, une bibliothèque spécialisée publique, hein, il va falloir attendre après 1937, peut-être 60-70 ans avant que ça se renouvelle en France. On va passer à une période un peu particulière et charnière, hein, la Seconde Guerre mondiale. Donc, être bibliothécaire sous l'occupation, donc vous montrer un peu différents aspects à partir d'exemples féminins. D'abord, en 1939, le transfert des collections précieuses hein, qui partent, par exemple, à Strasbourg. Ce sont des femmes qui prennent toutes ces collections précieuses, les mettent en carton et les transfèrent dans le sud de la France. Après, c'est aussi du quotidien, du déboussolement. Je vais vous lire une lettre de Myriam Foncin, l'administrateur de l'ADN. Donc, on est le 25 juillet 1940, donc quelques jours après la signature de l'armistice. Votre lettre vient de m'arriver. Je ne peux vous dire combien j'ai trouvé bon de recevoir enfin des nouvelles de la bibliothèque après de longues semaines de silence. Le 18 juin, j'ai gagné Clermont, où je me suis mis en rapport avec l'autorité académique. Je travaillais pendant un mois au service social organisé à la préfecture pour l'accueil des réfugiés. Dès que j'ai pu, je suis allée à Vichy, au ministère de l'Éducation, demander des ordres. Il m'a été dit que je devais me considérer comme en vacances. Voilà, c'est la fin de la guerre, l'armistice, on voit que tous les services sont déboussolés. Et donc là, le 25 juillet, elle reçoit une lettre de l'administrateur de l'ABN qui lui dit « Si vous êtes disponible, vous revenez au travail, revenez prendre votre poste. » Alors, le régime de Vichy, il met en place un certain nombre de lois qui devraient normalement freiner l'arrivée des femmes dans le travail. Mais en fait, avec la mobilisation des hommes, la présence des femmes est indispensable. Donc en fait, cette loi, elle va finalement avoir peu d'effet. Et souvent dans les bibliothèques, elles sont les seules à maintenir les services puisque les hommes ont été mobilisés. Ce qui permet un certain nombre, là aussi, de nominations. Contraintes et répression, donc la liste auto, tout un ensemble d'ouvrages qui sont interdits, hein, donc des auteurs, des maisons d'édition, les livres sont marqués et sont éliminés des collections. C'est aussi une période de répression, donc là, une lettre de Marguerite Gruny, donc qui dirige la bibliothèque de l'Heure Joyeuse et qui écrit à Jeannine Alburger, « Comme je comprends votre affreuse angoisse, ma chère amie. » Donc on est en 1939, hein, donc on est encore, bon, il y a des gens quand même clairvoyants. « L'horreur de la guerre et le tourment de savoir un être aimé au front, oui, il nous faut beaucoup de courage. Jusqu'à la dernière minute, j'ai espéré de toutes mes forces qu'Hitler calerait. Mais, puisqu'il ne calait pas, pouvions-nous le faire, céder ?» Et céder toujours, n'était-ce pas nous exposer à des conditions toujours pires ? N'était-ce pas nous condamner à voir Jacqueline Dreyfus-Veil, vous et vos familles chassées de France, dont vous faites parfaitement partie ? L'heure joyeuse, ornée d'une croix gammée, et nous, dans l'alternative, d'y mettre les livres que nous avons toujours soigneusement écartés, ou de leur préférer le camp de concentration. Là, vous avez aussi un document signé donc de Lise Level, qui est l'épouse de Monsieur Pastoureau, et donc elle se déclare être considérée comme de race juive selon la loi, et donc elle est mise à pied et elle ne reprendra son poste qu'en 1942. Donc les bibliothèques sont des administrations évidemment obéissantes et qui suivent les instructions. Quand on utilise ce genre de document, hein, donc on voit le chef de service transmis 1942 et puis Certaines rentrent en résistance, on retrouve Yvonne Houdon. Donc la place des femmes dans la résistance a été largement minorée. Il n'y a que 6 femmes qui ont été honorées par le titre de compagnon de la libération sur 1059 hommes. Donc on commence aussi à redécouvrir le rôle des femmes dans la résistance. Donc Yvonne Houdon, elle a fait partie du réseau du Musée de l'Homme. Elle s'est engagée avec un certain nombre d'hommes et de femmes. Et le groupe, il dactylographie un tract qui va devenir un journal. Il publie 4 ou 5 numéros, mais le cercle est infiltré et dès février 41, il est démantelé et les membres sont arrêtés, torturés, déportés. Normalement, Yvonne Houdon aurait dû être fusillée, mais elle est graciée et elle part en déportation. Elle reviendra en 1945. Parallèlement, la période de la guerre, c'est quand même une période, effervescence le mot peut-être fort, mais c'est une période culturelle assez riche. Et les bibliothèques n'y échappent pas. Alors, on se met beaucoup à lire, on publie, on écrit. Une citation qui est tirée d'un roman, mais un roman inspiré de la vraie vie de l'American Library à Paris. Et l'American Library, elle devait fermer en 1940. Et la directrice écrit à l'association américaine, et voilà ce qu'elle leur dit. Les bibliothèques sont des poumons. Les livres sont l'air qu'on respire pour que le cœur continue à battre. Les abonnés dépendent de nous pour obtenir des informations et se sentir en communauté. Les soldats ont besoin de livres et de savoir que leurs amis de la bibliothèque ne les abandonnent pas. Notre travail est trop important pour l'arrêter maintenant. Alors même si c'est un roman, c'est documenté. Et suite à cet écrit, l'American Library va d'ailleurs continuer à fonctionner jusqu'à la fin de la guerre. Autre exemple du boom de la lecture dans ces années, c'est le rapport de la bibliothèque de New York, et on pourrait prendre tous les rapports, quasiment toutes les bibliothèques à l'époque. Voilà, donc c'est une multiplication par 10, c'est le nombre de prêts, la flèche qui monte. Mais on voit aussi deux choses. 1936, c'est création de la salle populaire. Alors qu'est-ce que c'est une salle populaire? C'est une salle où on prête des livres. Jusqu'à présent, il n'y avait que des chercheurs qui venaient travailler sur place. Et 1940, création d'une salle jeunesse. La lecture est un élément important de la vie de la Seconde Guerre mondiale. Fin de la guerre. Donc bilan des destructions importants. 55 bâtiments gravement sinistrés. Donc à Rouen, Jeanne Dupic, elle s'est battue pour rouvrir. Donc la bibliothèque a été très endommagée, elle s'est battue pour ouvrir une salle transitoire. Donc une période de reconstruction et on va aller aussi vers une période d'amélioration. Donc quelque chose qui est pas forcément très connu, on connaît mieux la récupération des œuvres d'art. Dans la commission de récupération artistique des biens spoliés, il y avait aussi une section de livres. Et donc c'est Jenny Foster Delso qui en 1946 a pris la responsabilité de rendre les livres spoliés à leur propriétaire. Vous imaginez, c'est quand même difficile. Autant une œuvre d'art, elle est quand même assez marquée, elle a une histoire, elle est connue. Alors il y a des livres effectivement prestigieux, mais en plus c'est des masses. Les Allemands avaient emmené, donc c'est plus d'un million de volumes sur 15 kilomètres de rayonnage qui sont traités. Donc la commission, elle fonctionne jusqu'en 1949. Et comme elle le dit, aucune expérience antérieure n'a pu nous guider dans l'élaboration de notre plan de travail. Donc dossier d'espoir, identifier des dépôts, les conteneurs, trier, chercher, et essayer de rendre ces collections de livres. L'après-guerre est marquée par une volonté de démocratisation, de modernisation. Donc il y a aussi une dynamique égalitaire, le vote des femmes. Donc dans le statut général des fonctionnaires, aucune distinction pour l'application n'est faite entre les deux sexes. Donc quasiment tous les métiers sont accessibles aux femmes dans la fonction publique. Il y avait peu de disparités de toute façon. Déjà, l'accès des femmes dans la fonction publique, c'était plutôt des réticences et des rigueurs qui faisaient que les femmes n'accédaient pas à certains postes. Mais c'est réaffirmé. Donc, il y a tout un ensemble de projets qui ont été mûris pendant les 20 années précédentes qui vont prendre en forme. Donc, d'abord par la création d'un service qui s'occupe au niveau national des bibliothèques, à la direction des bibliothèques de France et de la lecture publique. Un homme la dirige et parmi les différents projets qu'il mène, il crée des bibliothèques centrales de prêt pour développer la lecture dans les zones rurales au niveau départemental. Et 4 femmes sont nommées à la tête de ces nouveaux établissements. Donc 8 bibliothèques, 4 femmes directrices. On voit que les mentalités ont largement évolué. Le petit bibliobus des Deux-Sèvres. Féminisation de la profession. Féminisation, discrimination, féminisme. Donc les féministes, elles ont peu résisté à l'essentialisme. Parce que finalement, cette ségrégation, elle a permis l'accès des femmes au travail. Le féminisme dans cette période, il est lié au combat pour l'accès au travail et il se fait selon ses conditions et pour la conquête des droits civils, pour la conquête du droit de vote. L'égalité politique, c'est l'objectif central des luttes. Les revendications féminines, moi je ne les ai pas vues apparaître dans les archives sur lesquelles j'ai travaillé. N'oubliez pas que les fonctionnaires ont un devoir de réserve, donc même si certaines étaient féministes, ça ne se verrait pas forcément dans leur activité de bibliothécaire. La seule qui a écrit ses mémoires, c'est donc Suzanne Briet. Et alors voilà ce qu'elle écrit. Je la cite. « En fin de carrière, je participais à une réunion de chefs d'établissement. On en vint à parler du travail féminin. Je dis, Suzanne Briet, la place de la femme est au foyer, déclarai-je à la stupéfaction générale. Si les deux guerres n'avaient pas tué des millions de Français, les femmes n'auraient pas eu à entrer dans la compétition. » Donc, même elle défaisait sa place de femme. Donc ensuite, elle a été interviewée plus tardivement et son intervieweuse écrit. Suzanne Briet n'avait pas peur d'agir. Mais elle avait peur d'être mal jugée pour avoir osé faire. Une femme, elle, vis-à-vis des hommes qui n'avaient pas su entreprendre. Elle avait beaucoup de mal à se livrer, y compris sur sa condition féminine. Son éducation lui avait appris la réserve et la modestie. Donc peu de traces de féministes. Souvent, la féminisation d'une profession, elle est considérée un peu comme une dévalorisation. Que des institutrices, que des bibliothécaires femmes, c'est que la profession a moins d'importance. Mais on peut prendre aussi le problème à l'envers. Est-ce que ce métier, il avait tant de prestige? Alors peut-être en trompe-l'œil pour quelques bibliothécaires dans les grandes bibliothèques parisiennes, pour quelques écrivains qui avaient des sinécures à Paris, mais les autres bibliothécaires, ils peinaient plutôt dans une petite obscurité, dans une tâche assez méconnue. Alors cette dépréciation du métier, elle a certainement facilité l'entrée des femmes dans la profession. La prise de poste, elle s'arrache pas de haute lutte, les hommes laissent la place. Ces nouvelles générations, elles sont souvent plus diplômées que les hommes en place, souvent mieux formées aussi que leurs collègues masculins. Elles effectuent pourtant surtout des travaux techniques. Elles entrent sans perturber le travail des hommes. Malgré tout, certaines, je l'ai montré, ouvrent des voies, organisent des nouvelles hiérarchies et investissent des fonctions inédites. Elles ont essayé d'avancer dans leur carrière, mais ça n'a pas été facile. Et là aussi, on retrouve quelque chose qui existe toujours, c'est ce fameux plafond de verre. Alors, je vais vous lire là le souvenir sur Jeanne Dupic. Donc, Jeanne Dupic, elle dirige la bibliothèque de Rouen pendant 20 ans, qui reprend tous les préjugés de la bibliothécaire. Madame Dupic, donc ses souvenirs, sa secrétaire, avait une réputation de dragon. Elle était une personne très sévère, avec un chignon et un immense trousseau de clés autour du cou. Nous devions nous adresser à Mademoiselle Dupic à la troisième personne. Mademoiselle, peut-elle me recevoir? Toutes les portes étaient fermées à double tour. Il était interdit de parler entre nous. Elle ne faisait confiance à personne. Le veilleur de nuit était surveillé dans ses rondes. Elle prenait une lampe de mineur et à 3 heures du matin, ils se retrouvaient tous les deux à se faire peur au coin d'un rayonnage. Bon, c'est un souvenir 20 ans plus tard. Mais ce témoignage reprend tous les préjugés de la bibliothécaire. Le chignon, les lunettes, l'habillement, la sévérité, la vieille fille, le silence, la maniaquerie et une certaine folie. Et cette représentation très austère et très particulière de la bibliothécaire, elle est diffusée partout. Elle est très représentée aux États-Unis, dans les romans, dans les films. Alors, est-ce que les clichés des femmes bibliothécaires n'auraient pas été intériorisés pour dévaloriser ces femmes dirigeantes ? Personne n'avait envie d'être dirigée par une femme. Elle s'aventure sur un territoire qui est exclusivement masculin et donc elle s'expose à un jugement sexiste. Persiflage, quolibets peuvent créer un manque de confiance. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Eh bien, on se durcit, on devient plus sévère, on se surinvestit professionnellement. Et c'est peut-être de là que viennent cette austérité de la femme bibliothécaire, ce chute qui est porté partout, parce que pour s'imposer, elles doivent durcir leur caractère. Elles sont obligées de sévir pour être écoutées et reconnues. Alors, il faut aussi ne pas oublier que dans les années 60, dans les années 50, 60, jusqu'en 1970, on est quand même sur un encadrement qui est assez rigide, répressif, organisé. On n'est pas dans la période de la discussion et du consensus. Donc, elle rentre aussi dans ce management assez répressif qui était de l'époque. Mais les femmes ont payé beaucoup plus cher sur ce management. Voilà, on arrive quasiment à la fin de cette présentation. Il y a des historiennes américaines qui avaient déjà travaillé sur ce sujet, parce qu'il était quand même plutôt vierge. Mais en 1980, il y a quelques femmes qui avaient fait des études partielles sur ces femmes. Et voilà ce que dit l'une d'entre elles. Les femmes qui sont entrées dans la profession bibliothécaire en France entre les deux guerres mondiales étaient intellectuelles et dynamiques. Et leur activité a accéléré la professionnalisation et le développement des bibliothèques, en particulier des bibliothèques publiques, dans un pays où la bibliothéconomie avait sombré dans la somnolence. Donc, les femmes, je pense qu'elles sont arrivées à une période de transition et qu'elles ont largement aidé de manière assez silencieuse et discrète, mais qu'elles ont largement œuvré à la modernisation qui se met en place tout doucement dans les bibliothèques. Enfin, voilà, moi, mon étude historique, elle s'arrête en 1950, mais le vrai décollage des bibliothèques, il est dans les années 60, et là, il n'y a quasiment que des femmes. Et donc, je pense que les femmes ont été des alliées des bibliothèques. Toutefois, aujourd'hui, 80% de femmes qui travaillent dans les bibliothèques, 85%, et toujours plus d'hommes directeurs que de femmes directrices. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Et si vous avez des questions...
J'ai cru remarquer que vous aviez une relation particulière avec une des personnes dont notre conférencière nous a parlé. Vous êtes la fille de cette dame.
C'est ça, donc à travers l'expérience de ma maman, qui est devenue après une bibliothécaire dans une autre, à la bibliothèque de l'Alliance israélite universelle, après la guerre, où elle s'est occupée du catalogage des ouvrages volés par les Allemands, récupérés pour établir le fichier des livres volés. Mais dans les années 20, donc elle a fait l'école de bibliothécaire américaine, et elle est rentrée à la Joyeuse, qui était une bibliothèque d'innovation, je pense, qui était complètement liée au mouvement moderniste. Enfin, il y a une très belle exposition en ce moment à la médiathèque Françoise Sagan sur l'histoire de sa bibliothèque, qui a été créée en 1924 par donc deux bibliothécaires que vous citez, évidemment Marguerite Greny et Mathilde Lerich. Et maman faisait partie de cette équipe. Elle était jeune, elle était assistante, elle n'était pas bibliothécaire en titre, mais...
Elle était aimable.
Oui, elle était aimable. Et elle est restée toute sa vie liée à cette activité, à ces deux personnes que vous citez. Je pense qu'elle a connu Jacqueline Dreyfus-Weil parce qu'elles avaient exactement le même âge et elles avaient l'information. Une question que je me suis posée en vous écoutant, c'était par rapport au célibat. C'est-à-dire, effectivement, ma maman écrit « Quand je me marie, je suis obligée d'arrêter, en quelque sorte, de travailler ». Est-ce qu'il y a une proportion
importante. C'est la deuxième partie du livre, en fait, j'en ai pas du tout parlé, mais la deuxième partie du livre est plutôt sociologique, et effectivement, la majorité sont célibataires. Beaucoup de femmes qui travaillent à l'époque sont célibataires. Enfin, l'exemple de votre mère était tout à fait intéressant.
C'est ça.
ce qui montre bien que...
Il y a une autre partie de son journal où elle raconte que dès qu'elle rencontre... son futur époux, donc mon père, elle l'invite à la bibliothèque pour faire connaissance, quoi. elle dit qu'il vient avec sa mère.
Oui, j'ai
pas. Et que la mère, elle a l'air très aimable, et qu'elle dit, c'est un beau métier pour une femme.
Oui, mais tant qu'elles n'ont pas d'enfants, puisque le mariage, et puis ensuite les enfants, la maternité, c'est souvent une raison pour arrêter de travailler, en fait. Hein. Ou alors le choix de ne pas se marier. Celles qui font des grandes carrières, là, dans les 10 pionnières que je vous ai citées, là, il y en a une seule qui est mariée, hein.
Marguerite Grenier organisait tous les ans, au moment de la galette des rois, des fêtes où elle cachait les cadeaux, et nos cadeaux c'était des livres, évidemment, et elle les cachait dans toute sa maison, et il fallait aller chercher la course au trésor pour retrouver son cadeau, voilà, pour la galette des rois.
Merci pour ces anecdotes.
Oui, c'est amusant, oui.
Merci pour cette conférence que j'ai beaucoup aimée.